réel, c'est l'homme social. C'est-à-dire que je ne suis humain que pour autant que je peux faire corps avec la société à laquelle j'appartiens, et je ne peux pas faire corps avec la société à laquelle j'appartiens si celle-ci est fissurée, en conflit, traversée d'inégalités, d'injustices. Et donc, tu es socialiste si tu penses que l'homme réel, c'est l'homme social, que je ne m'accomplis comme homme, que pour autant que je puisse m'identifier, me reconnaître dans la société à laquelle j'appartiens, mais cette société est à réaliser dans un contexte de lutte, de crise permanente, qui suppose donc de surmonter l'état actuel de nos collectivités qui sont entre la horde et la société, plus agitées d'injustice et de violence que réalisant l'humanité. Donc le genre humain ne se fera que lorsque la société se fera comme telle. Le socialisme, en quelque sorte, tel qu'on l'a caractérisé dans ses aspects les plus abstraits, est ce qui fonde essentiellement des devoirs. Si le sujet n'existe que par rapport que dans la société à laquelle il appartient, par rapport à cette société, il a essentiellement des devoirs. Alors que la pensée que nous allons essayer d'examiner ce soir, là, dans le même parti pris d'abstraction, qui est celle du libéralisme, fonde bien davantage des droits, c'est-à-dire ce que je peux revendiquer, ce que je peux attendre de la société. Le libéralisme tel que je vais le caractériser ce soir est lié à ce que l'on pourrait appeler un atomisme social. L'individu, en latin, c'est le même mot que atome en grec, c'est la plus petite partie, la partie indivisible et unique, qui est le noyau ultime de réalité à partir duquel donc les ensembles se constituent. Pour simplifier, sans non plus la fausser, la distinction entre le socialisme et le libéralisme, on peut donc dire que tu es libéral si tu penses que le sujet a essentiellement à s'accomplir comme subjectivité autonome, rationnelle, bien informée et calculatrice, et que donc la collectivité ne résulte que de l'action, que de l'interaction de ces sujets autonomes, rationnels et informés. Les origines intellectuelles de ce que l'on appelle le libéralisme sont à trouver, évidemment on peut toujours discuter, au XVIIe siècle, sous deux aspects. Le premier aspect, c'est que le XVIIe siècle est celui dans lequel commencent de se développer les États-nations, qui n'achèveront leur développement qu'au XIXe, que ce développement des États-nations se fait concurrentiellement avec l'Église et avec les Églises, et que donc à partir du XVIIe, on assiste à toutes ces violences qui correspondent à des tentatives d'ajustement de la sphère politique et de la sphère religieuse. En fait, l'aboutissement de ces épisodes, c'est l'instauration d'un espace public qui va se développer particulièrement à partir du XVIIIe siècle, dans lequel chacun peut intervenir indépendamment de toute autorité. l'espace public ouvert par la déhiscence du religieux et du politique est un espace dans lequel chacun peut intervenir, comme journaliste par exemple, ou comme coureur cycliste, sans avoir besoin de s'abriter derrière une autorité d'église, par exemple, ou d'une autorité, d'une investiture politique quelconque. Et ce qui caractérise bien cette transformation progressive qui aboutit à l'espace public, c'est donc cette récusation de la légitimité de toute parole d'autorité dans la sphère publique. À la rigueur, un croyant pourrait y intervenir, mais pourvu qu'il n'y intervienne pas au nom d'une quelconque autorité. C'est-à-dire que cette sphère publique évince ou diminue l'influence de toutes les autres organisations collectives, de toutes les autres sphères de responsabilité et d'autorité. La deuxième raison pour laquelle on peut voir cette pensée libérale prendre son origine au XVIIe siècle, j'en ai évoqué quelques mots, je crois, lors de notre première rencontre, c'est que ce XVIIe siècle, c'est l'émergence de la science, en particulier donc physique et mathématiques, de l'application des mathématiques à la connaissance du monde, et que cette émergence de la science fait que ce que l'on privilégie pour interpréter le monde, c'est les rapports de force. La science aristotélicienne était une science finaliste, c'est-à-dire que le mouvement était compris en fonction de sa fin, interprété en fonction de sa fin, de telle sorte que on pouvait toujours répondre à la question « pour quoi ?»« En vue de quoi ?»« À quelle fin ?» L'interprétation que la science galiléenne et cartésienne donne du cosmos est une explication que l'on appelle mécaniste, c'est-à-dire qui comprend le monde comme une machine faite de rouages, de ressorts, de courroies, et cette machine est réglée par des rapports de force qui peuvent être orientés vers n'importe quelle fin. Car la machine n'a pas de fin propre. Elle a les fins que je lui assigne. On n'a jamais vu une voiture aller toute seule à une station-service. Et de telle sorte que ce monde interprété comme rapport de force est un monde que je peux soumettre, puisque ces rapports de force n'ont pas d'autre fin que celle que je leur assigne. Je peux donc inventer les fins que ces rapports vont servir. Et puis d'autre part, c'est un monde dans lequel les équilibres que nous pouvons constater ne sont que la résultante des rapports de force. Si cette table tient en équilibre, c'est la résultante d'action et de réaction, c'est-à-dire de rapports de force. Cette science, selon l'injonction cartésienne, est aussi une science qui est persuadée, et à juste titre, que l'on se donne une bonne intelligence du monde si on procède toujours en réduisant le complexe au simple. Et donc le dernier degré de simplicité, c'est le dernier atome de force, en quelque sorte, d'une machine. Et ce qui va se développer dans une perspective physique se transcrit très bien dans le monde social. Donc la société interprétée comme une machine construite selon des rapports de force et des rapports de force dont l'ultime vecteur est l'individu. Comme dans la matière, ne règnent que des rapports de force dont l'ultime vecteur est l'atome. C'est pourquoi le grand penseur qui est à l'origine du libéralisme, c'est Hobbes, puisque Hobbes se présente d'ailleurs lui-même et à juste titre comme le vrai successeur d'Aristote. C'est d'ailleurs le premier à faire une science politique avec les méthodes qui prévalent dans la science du monde. Aristote a fait une science politique avec les méthodes qui prévalaient dans la science du monde qui était la sienne. Eh bien, Hobbes dit, moi je vais faire une science politique avec les méthodes qui prévalent dans la connaissance que nous avons actuellement du monde. Nous connaissons le monde comme une machine. La société est une horloge. Je la démonterai jusqu'à ses derniers rouages. Et le dernier rouage, c'est l'individu. D'où la grande question, qui est celle des modernes? Comment faire vivre ensemble les gens qui n'ont aucune raison de vivre ensemble? Comment les ajuster l'un à l'autre? Ça prend beaucoup de métaphores dans l'histoire de la philosophie. Peut-on faire une société de méchants? Que donnerait quelqu'un qui serait jeté sur une plage inconnue? Etc. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai démonté ma mobilette pièce à pièce, ce qui est l'opération de l'intelligence. Comment remonter la mobilette? Je suppose que cette image doit dire quelque chose à un certain nombre. On l'a vu, Aristote se donne l'hypothèse facile en disant qu'il y a une amitié de l'homme pour l'homme. Comment concevoir la société si je ne me donne pas le postulat qu'il y a une amitié de l'homme pour l'homme? C'est le plus grand défi. Il va donc falloir que ces hommes composent, comme des forces composent, et que l'état d'équilibre puisse résulter de la composition de ces forces, dont il n'est pas du tout nécessaire de penser qu'elles sont douées de bonnes intentions. Il suffit que l'on pense qu'elles sont bien informées et calculantes. Calculantes. C'est Hobbes qui disait « penser, c'est calculer ». La question donc bien posée par le libéralisme, c'est la question combien à la mode dans nos, sur nos lèvres au moins du vivre ensemble. Si on prend pour point de départ donc des appartenances dissociées, des individus dissociés. Le modèle qui va répondre à ce défi sera celui du pacte, du contrat. Mais non pas le contrat au sens de Rousseau, car on a vu que le contrat au sens de Rousseau est un contrat socialiste. Il est irréversible et il est un don total de soi. Un contrat irréversible, c'est pas un contrat. C'est autre chose. Alors que le pacte tel que Hobbes le décrit, est bel et bien un contrat dans la nature même du contrat, c'est-à-dire que chacun garde la main sur la crosse du pistolet, car le propre d'un contrat, c'est que chacun garde la main sur la crosse du pistolet. Puisque l'objet essentiel d'un contrat, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où le contrat est rompu. C'est comme ça que le droit procède. La philosophie libérale est donc une philosophie qui va s'appuyer essentiellement sur une compréhension du droit, comme ce que l'on peut faire valoir à l'égard des autres, ce que l'on peut faire valoir contre les autres et que l'on peut composer dans des intérêts bien compris, qui nous permettent de former une société pourvu que les intérêts soient bien compris. Pour éclairer cette pensée libérale, de la même manière que j'ai pris un auteur principal la dernière fois, de manière un peu arbitraire, qui était Rousseau, là c'est d'une manière tout à fait non arbitraire que j'ouvrirai essentiellement des pages de Benjamin Constant, qui est le grand penseur du libéralisme. Et penseur profond, suggestif, dont on ne peut que recommander la lecture. Je développerai d'abord trois fondement intellectuel du libéralisme, puis trois caractères auxquels reconnaître le libéralisme, pour terminer, comme avec Rousseau, sur quelques indications sur les difficultés soulevées, puisque Rousseau en a vu, il y a une difficulté soulevée, c'est que quand même le modèle socialiste semble déboucher forcément sur un totalitarisme. Bon, c'est une difficulté historique qui n'est pas nulle, puisque historiquement c'est ce qui s'est vu partout. Et on montrera aussi comment donc la pensée libérale peut être lestée de quelques questions. Pour terminer, comme avec Rousseau, sur la place de la religion dans la pensée libérale. Comme nous avions terminé avec Rousseau sur la place de la religion dans le système tel que Rousseau l'envisageait. Partons d'une distinction que Benjamin Constant a rendue classique, distinction extrêmement éclairante, qui est celle qu'il fait entre la liberté chez les anciens et la liberté chez les modernes. Car nous sommes évidemment des modernes. La liberté chez les anciens, c'était celle, justement, du citoyen. C'était un honneur que d'être un citoyen. L'homme libre, c'est celui qui participait aux assemblées, payait des corégies, payait des régiments, était fier de pouvoir voter et de payer des impôts, et donc était fier de participer à la vie de la cité. Être libre, à la différence des esclaves, des femmes et des métèques, c'était être un homme et pouvoir participer aux affaires de la cité. Pour un ancien, la sphère de l'action était celle à laquelle un homme digne de ce nom participe. Il aurait été bien loin de mettre le bonheur dans la vie intime, qui était réservé aux gynécées. L'honneur d'un homme, c'est de monter sur la tribune et de prendre part donc à la cité en votant, en participant aux assemblées, en payant des corégies ou des armées. De telle sorte que plus un homme participe à la vie de la cité, plus il est libre. En revanche, chez les modernes, la liberté consiste à demander au pouvoir de s'écarter, demander au pouvoir de me laisser tranquille et de laisser les individus vaquer à leurs occupations selon leurs capacités, selon leurs goûts, sans avoir à y intervenir. C'est la raison pour laquelle, de manière à mon avis assez lucide, Benjamin Constant, qui en a été le témoin, a décrit la Révolution française comme un anachronisme. Car la Révolution française a célébré des vertus antiques, y compris du point de vue esthétique, la mode romaine, tout ça, au moment même où, au fond, elle enclenchait un processus libéral. Car la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte libéral par essence. Et donc c'est un malentendu qui a fait que on s'habillait à la romaine, on faisait des décors romains, on s'appelait citoyen, et on développait un culte de la vertu, même il y avait le culte de la vertu, dont rêvait Robespierre, qui empruntait ses oripeaux au souvenir de la vertu antique. Et c'est sans doute d'ailleurs ce malentendu, cet anachronisme, qui explique que à la friction des deux visions du monde, la vision antique et la vision moderne, se soient déroulés tant de massacres au fond parce que les individus donc se sont trouvés comme pris entre deux meules. Car dans le même temps, qui a ramassé les fruits de la révolution? C'est les muscadins, les incroyables et les méveilleuses, dont Benjamin Constant faisait partie, car Benjamin Constant s'est considérablement enrichi pendant la Révolution et est rentré dans l'attitude à la fois esthétique et politique des muscadins avec ses aussi prodromes du romantisme. On reviendra là-dessus si ça vous intéresse. L'état de l'espèce humaine dans l'Antiquité ne permettait pas à une institution... Non. Demandez-vous d'abord, messieurs, ce que de nos jours un Anglais, un Français, un habitant des États-Unis entendent par le mot de liberté ? C'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir ni être arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière, par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, l'ouverture de l'espace public, de choisir son industrie, de l'exercer, de disposer de sa propriété. Car l'émergence décisive de l'idée de propriété, c'est le XVIIe siècle. D'en abuser même, liberté d'user et d'abuser, d'aller, de venir, sans en obtenir la permission et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. C'est pour chacun le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours et ses heures d'une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies. On est vraiment aux antipodes d'Aristote. Si vous connaissez un tout petit peu Aristote, tant pis, je développe un point qui m'intéresse. J'ai indiqué rapidement, trop rapidement, la coïncidence de l'émergence de la pensée libérale et du mécanisme, de la philosophie mécaniste de la nature. Quelle est la grande différence entre les anciens et les modernes? C'est que pour les anciens, le mouvement est en vue du repos. La bille roule jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa place. De telle sorte que l'excellence d'un homme se montre, il nous en reste quelque chose, à son immobilité. Car celui qui est à sa place est précisément libre parce qu'il est à sa place et non pas parce qu'il peut s'agiter de tous côtés. Il y a une page merveilleuse d'Aristote dans laquelle Aristote dit « Le général ne bouge pas ». Le petit esclave, lui, se balade d'une cour à l'autre, il prend de la soupe dans une marmite, il va faire des blagues aux cuisinières, etc. Le petit esclave bouge. Le général, lui, ne bouge pas. Parce que le petit esclave n'a pas de place. Le général, lui, en a une et il doit l'investir totalement. Il trouve son devoir avec sa place. Ça, c'est ce que nous verrons dans l'analyse du conservatisme. Trouver son devoir avec sa place. Son office. Au contraire, dans la vision moderne, ce n'est pas le mouvement qui est en vue du repos. L'état normal de la nature, c'est le mouvement. Le repos est l'état rare qui résulte précisément de l'opposition des forces. Tout corps est en mouvement. S'il est apparemment en repos, c'est qu'une force s'y est opposée. Si j'enlève l'estrade, le bureau continue de descendre. Si j'enlève le sol, le bureau continue de descendre. Et il peut continuer d'un mouvement rectiligne et uniforme jusqu'en Nouvelle-Zélande et aller plus loin. S'il est en repos, c'est uniquement à cause de rapports de force. Et donc pour les modernes, nous, Nous autres, qui sommes modernes, nous qualifions la liberté comme mouvement. C'est marrant, hein? Ça nous paraît naturel. D'où cette page de Benjamin Constant qui se plaît à décrire la variété des attitudes, la variété des choix, toutes les possibilités, et puis même la possibilité de changer. Ce qui est impensable pour un citoyen aristotélicien. C'est pour chacun le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours et ses heures de manière plus conforme à ses inclinations et ses fantaisies. Enfin, pour chacun, c'est le droit d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, des demandes que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération. Un peu plus loin, on peut encore lire. Chez les anciens, l'individu, souverain presque habituellement dans les affaires publiques, est esclave dans les rapports privés, le gynécée. Chez les modernes, au contraire, l'individu, indépendant dans la vie privée, n'est, même dans les États les plus libres, souverain qu'en apparence. Voilà, donc deux formes de la liberté antinomiques, et si on ne prend pas garde de penser cette distinction, on risque les plus grands malentendus. Deuxième remarque, donc première distinction, liberté chez anciens, liberté chez modernes. Deuxième remarque, il est classique de dire, depuis Montesquieu, et Benjamin Constant reprend à longueur de page cette analyse de Montesquieu, que ce qui a entraîné ce bouleversement social et politique, c'est l'émergence du commerce. C'est la liberté du commerce. Qui a besoin de liberté? Le commerçant, qui a besoin de liberté au sens de capacité de se déplacer, capacité de contracter, capacité de changer, de changer et d'échanger. Là encore, on peut quand même lire la page canonique de Montesquieu pour ceux d'entre vous qui voudrait le vérifier. C'est une page que, quand on fait les études, il faut absolument connaître. C'est le livre 20 de l'Esprit des lois. Une page classique. Si je la retrouve. Sinon, je crois que je pourrais presque vous la réciter, mais... attendez voir. Voilà. L'effet naturel du commerce est de porter la paix. Le commerçant est un homme pacifique. D'ailleurs, le commerçant est faible en conviction, on ne peut pas se permettre d'avoir des convictions. Et donc, il a intérêt à ce que les peuples échangent, se comprennent. L'effet naturel du commerce est de porter la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes. Si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre. Et toutes les unions sont fondées sur des intérêts mutuels. Mais si l'esprit de commerce unit les nations, il n'unit pas de même les particuliers. Nous voyons que dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales. Les plus petites choses, celles que l'humanité demande, s'y font et s'y donnent pour de l'argent. L'esprit de commerce produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte, opposé d'un côté au brigandage, mais de l'autre, à ses vertus morales qui font qu'on ne discute pas toujours ses intérêts et qu'on peut même les négliger. La privation totale du commerce produit au contraire le brigandage, qu'Aristote met au nombre des manières d'acquérir. L'esprit n'en est point opposé à de certaines vertus morales. Par exemple, et l'exemple est vraiment très éclairant, Par exemple, l'hospitalité. Très rare dans les pays de commerce, se trouve admirable parmi les peuples de brigands. Superbe exemple. Arrêtons-nous un moment à cet exemple. Donc, que nous dit Montesquieu dans cette page? Il nous dit le commerce est favorable à la paix entre les peuples et à la dispersion entre les individus. Les peuples s'unissent, les individus se disloquent. L'intérêt permet au peuple de conclure des contrats, mais l'intérêt fait que les grandes solidarités primitives qui faisaient le coagulant des sociétés se défont. Exemple, dit Montesquieu, et il a tellement raison que c'en est bouleversant, la plupart des actes ordinaires de solidarité sont devenus mercantiles. À commencer par l'éducation et le soin. Nous avons confié l'éducation à des mercenaires, nous confions le soin à des mercenaires. Donc les rapports les plus proches, les plus réels entre les individus sont comme disjoints par le couteau de l'argent et font que toutes les relations humaines deviennent analysées, analyser ça veut dire diviser, toutes les relations humaines deviennent analysées par ce couteau subtil qui est celui de la relation de commerce. Or, tout bien peut devenir objet de commerce, pourvu que il en soit reconnu la rareté, que soit l'air, l'eau, la lumière. Même la mort coûte cher, dit un personnage du violon de Shostakovich. Et donc on est même arrivé à faire des cérémonies, des rituels les plus sacrés aux yeux de l'humanité, objets de commerce. Et l'exemple de l'hospitalité est vraiment passionnant. Parce que je m'arrête un moment là-dessus. Le mécanisme de l'hospitalité, on célèbre les grandes sociétés hospitalières, les sociétés primitives, elles sont hospitalières. Tu parles? Oui, elles sont hospitalières. Mais parce que il faut se rappeler que dans la langue, hôte est un des mots les plus riches. Avez-vous remarqué que hôte signifie à la fois celui qui reçoit, celui qui est reçu, signifie à la fois la victime et celui qui est l'ennemi. Et donc, l'hospitalité, c'est la possibilité que celui qui arrive soit un ennemi hostis. Faut faire gaffe. Donc, je le reçois comme un dieu. Il peut être dangereux. Et c'est pour me prévenir ce danger que je cultive l'hospitalité. Et cette hospitalité, en même temps, elle fonde une relation qui est une relation de dette. Et cette dette, elle est justement le contraire même du contrat. Le commerce me laisse sans dette. Je ne dois rien au commerçant. Bonjour monsieur, je voudrais un poste de télé, phrase que je n'ai jamais prononcée. Bonjour monsieur, je voudrais un poste de télé, je repars avec mon poste de télé, je ne dois rien au commerçant. Ce n'est pas lui qui m'a donné quelque chose, c'est moi qui lui ai pris quelque chose et lui m'a pris quelque chose. Ce n'est pas du donnant-donnant, c'est du prenant-prenant. Et le commerce permet à chacun de repartir exonéré de toute dette, exonéré de toute reconnaissance. Je ne suis même pas obligé de dire merci. Au contraire, le monde du don, le monde de l'hospitalité, le monde de la communauté est un monde qui repose essentiellement sur la dette. Et donc, quand vous allez en Corse, pourvu que vous soyez un peu influent, vous avez toujours quelqu'un pour vous offrir à boire. Ouais. Voilà, et l'allégeance commence. Oh, que c'est merveilleux l'hospitalité. Oui, sauf que celui qui m'a payé à boire, il y en a sur moi. Alors que quand je paye, je m'exonère de toute dette. Donc, voyez, le lien commercial, il analyse profondément toutes nos articulations sociales, y introduisant la rationalité de l'intérêt et libérant des servitudes traditionnelles de la peur de la dette. Et je préfère 100 fois payer ma chambre d'hôtel plutôt que de bénéficier d'une hospitalité. L'hospitalité, elle va être pesante. La chambre d'hôtel est légère, je peux même remplir une feuille d'évaluation. Et me venger en douce. Benjamin Constant approfondit l'analyse en montrant que le commerce, c'est la guerre continuée par d'autres moyens, pour reprendre et travestir la phrase de Clausewitz. Le commerce, c'est la guerre continuée par d'autres moyens, puisque le but du commerce et le but de la guerre est le même, acquérir. Seulement, le commerce permet d'acquérir de gré à gré, sans avoir besoin de passer par la violence et par le défi. On peut donc obtenir par le commerce, de gré à gré, ce que la guerre permettait de conquérir. Or, la guerre, il est vrai, mobilise les plus hautes vertus. La guerre exerce les plus hautes vertus, celles qui sont précisément les vertus de la liberté, c'est les anciens, c'est-à-dire les vertus de qui s'engage, de qui se hausse dans son appartenance à son devoir. Alors oui, la guerre développe le courage, la persévérance, le sens du sacrifice, le sens de la fraternité, de la solidarité guerrière. Il y a une fraternité guerrière et elle est exaltante. Et donc, on peut très bien imaginer que la guerre fonde une éthique chevaleresque et qui sollicite de l'homme le meilleur de lui-même. C'est pourquoi on est tenté, quelquefois, de voir disparaître, se décolorer ces vertus guerrières qui, effectivement, permettaient à des hommes de grandir dans le défi, la proximité du danger et la fraternité. Société de commerçants, on n'a plus à être solidaire, ce sont des individus qui vont pouvoir échanger, discuter. Et vont obtenir la même chose que ce qu'obtenait le guerrier. Sauf que ils vont l'obtenir de manière plus pacifique, avec ces deux conséquences qu'a bien souligné Montesquieu, alliance des peuples, disjonction des liens internes. On pourrait suivre toute l'histoire de l'Europe avec ça. C'est une clé vraiment parfaite pour lire un grand nombre de notre histoire, un grand nombre de pages de notre histoire. Hirschman dit que le grand problème des sociétés dans Passions et intérêts, ceux d'entre vous qui font des études, je leur conseille de lire ou relire Passions et intérêts de Hirschman. Hirschman dit que le grand problème d'une société, c'est que faire des passions. Les sociétés ont trouvé trois manières de résoudre cette question. La première, c'est celle de la religion. Sublimer les passions en les sacrifiant, dit Hirschman, et c'est la vertu ascétique, c'est la vertu du moine. La 16. L'exercice libérateur des passions. La deuxième manière pour se libérer des passions, c'est précisément la guerre. Car à ce moment-là, ce n'est plus la figure du moine, c'est la figure du chevalier qui va hausser ses passions en les mettant dans son armure et en leur faisant investir un statut qui ne se confond pas avec ses entrailles à lui. repenser, par exemple, à la mort de Roland. Où la mort de Roland est décrite comme une apothéose, où l'individu Roland n'existe plus et il est totalement investi de son statut de héros à travers lequel donc il peut être exalté. Et donc, si l'ascèse est le chemin que le moine peut choisir pour surmonter les passions, le courage est le chemin que le chevalier peut suivre. Vient, dit Hirschmann, le temps du commerçant, que l'on voit bien d'ailleurs du point de vue littéraire émerger au XVIIIe, pensez au théâtre bourgeois. Quand tout d'un coup, au théâtre, on a plus mis d'empereur ni de roi, mais on a mis des commerçants et des boutiquières qui avaient un enfant illégitime que l'on reconnaissait grâce à un bracelet ou à un chausson. Et ce commerçant, la pensée libérale pense qu'il a de quoi surmonter les passions grâce à l'intérêt. Car l'intérêt, à la différence des passions, est raisonnable, rationnel. Et donc, c'est la troisième figure, le moine avec la cèse, le chevalier avec le courage, le commerçant avec l'intérêt. Et le pari d'une pensée libérale, c'est que une société dans laquelle chacun comprend son intérêt est une société bien ordonnée et dans laquelle les passions n'ont plus lieu d'être. Enfin, troisième fondement de cette philosophie libérale. Attends, je voulais vous lire quelque chose de Benjamin Constant, excusez-moi, parce que j'ai promis de lire. Donc c'est dans l'esprit de conquête. Alors là, ça n'est pas l'anachronisme des révolutionnaires, c'est l'anachronisme de Napoléon d'avoir voulu faire la guerre à des commerçants. Rien n'est pire que la guerre faite par des commerçants. 700 000 commerçants avinés ont déferlé sur l'Europe et s'en sont mis plein les poches. Voilà les conquêtes napoléoniennes. Rien n'est pire que la guerre faite par des commerçants dépourvus de sens de l'honneur et qui se comportent comme des soudards déferlants sur des civilisations qui valent mieux qu'eux. Nous sommes arrivés à l'époque du commerce, époque qui doit nécessairement remplacer... Ça a valu évidemment à Benjamin Constant et Madame de Staël quelques ennuis avec le puissant Corse. Nous sommes arrivés à l'époque du commerce, époque qui doit nécessairement remplacer celle de la guerre, comme celle de la guerre a dû nécessairement la précéder. La guerre et le commerce ne sont que deux moyens différents d'arriver au même but, celui de posséder ce que l'on désire. Le commerce n'est autre chose qu'un hommage rendu à la force du possesseur par l'aspirant à la possession. C'est une tentative pour obtenir de gré à gré ce qu'on n'espère plus conquérir par la force. Un homme qui serait toujours le plus fort n'aurait jamais l'idée du commerce. C'est l'expérience qui, en lui prouvant que la guerre, c'est-à-dire l'emploi de sa force contre la force d'autrui, est exposée à diverses résistances et à divers échecs, le porte à recourir au commerce, c'est-à-dire à un moyen plus doux, plus sûr d'engager l'intérêt des autres. La guerre est donc antérieure au commerce. L'une est l'impulsion sauvage, l'autre le calcul. Il est clair que plus la tendance commerciale domine, plus la tendance guerrière doit s'affaiblir. Le but unique des nations modernes, c'est le repos. Avec le repos, l'aisance. Et comme source de l'aisance, l'industrie. La guerre est chaque jour un moyen plus inefficace d'atteindre ce but. Un gouvernement qui, de nos jours, voudrait imiter la République romaine aurait ceci de différent, qu'agissant en opposition avec son peuple, il rendrait ses instruments tout aussi malheureux que ses victimes. Troisième caractéristique, troisième fondement intellectuel de cette philosophie libérale, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, on va s'y arrêter, c'est l'ouverture de l'espace public. Cette notion d'espace public a été très bien développée chez les philosophes contemporains par Habermas, qui caractérise l'espace public comme celui dans lequel chacun peut intervenir pourvu qu'il fournisse des raisons. C'est l'émergence de celui que l'on appellera l'intellectuel. L'intellectuel, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le général. C'est celui qui n'intervient dans le débat qu'à partir d'une autre compétence qui l'autorise à donner son avis sur la place publique, mais pourvu que cette place publique soit ouverte largement, et donc c'est l'espace de discussion qui ouvre les libertés publiques. C'est un espace, on l'a dit, de communication qui relativise toutes les autorités et qui fait que la liberté la plus essentielle que souligne le libéralisme, c'est la liberté d'opinion. Liberté d'avoir son opinion, de la publier, de la faire circuler et de la confronter dans un espace de discussion. Qui veut être une autorité se dérobe à la discussion. Le violent se dérobe à la discussion. Le pari de la thèse libérale, c'est que ouvrir un libre espace de discussion mettra en échec la violence. Car si le violent est conduit à dire ce qu'il a à dire et s'il est tenu d'exposer ses raisons, alors il devra baisser les armes et il devra bien, dans cet espace de discussion, laisser une place à l'objection, laisser une place à l'autre. En quelque sorte, c'est vraiment la philosophie réalisée, ça. C'est le grand espoir de la philosophie, pouvoir faire de l'autre quelqu'un avec qui discuter et pouvoir faire du désaccord un moyen de parvenir à une composition, à une négociation, à des positions concertées. C'est ce qui fait évidemment que cet espace libre de discussion donc crée une grande difficulté pour tous ceux qui, comme l'Église, seraient tentés de se présenter comme autorité et prétendraient exercer un magistère sur les consciences. Indépendamment d'une quelconque participation à la vie collective. Vous savez que ce fut pour l'Église la grande discussion au XIXe siècle, celle de la liberté d'opinion. Que Montalembert, dont il faut bien que je parle, puisque c'est celui sur lequel j'ai travaillé et que j'essaye de faire connaître, que Montalembert s'est fait à deux fois taper sur les doigts par l'Église, parce qu'il, lui qui était un catholique libéral, a soutenu l'idée que pour un catholique, la liberté d'opinion était une chance. Idée singulière pour un certain nombre d'ecclésiastiques de l'époque qui rétorquaient qu'il n'y a pas de liberté de l'erreur. Ce à quoi Montalembert répondait que si je suis suffisamment fondé en raison, je n'ai rien à redouter du libre espace de discussion et les catholiques devraient descendre dans l'arène plutôt que de bouder dans leur coin. Et alors que un certain nombre de catholiques au XIXe ont réagi à l'ouverture de l'espace public par une attitude obsidionale, cherchant à se réfugier derrière les fortifications d'une institution, puisque dans l'encyclique Mirari Vos, par laquelle Montalembert est condamné, le pape Grégoire XVI déclare que la liberté d'opinion est un délire. Et vous savez que c'est là-dessus que Monseigneur, et pas du tout sur le latin, qui n'a rien à voir à l'affaire. Vous savez que c'est là-dessus que Monseigneur Lefebvre s'est séparé de Vatican II, parce que à cause de la déclaration de Vatican II sur la liberté de conscience, et non pas à cause du latin. Voilà. Donc le grand enjeu, c'est ça. Si j'ouvre un espace d'interlocution, d'appel, il faut évidemment que je puisse fournir des raisons. La conviction de fond d'un penseur libéral, es-tu libéral ? La conviction de fond d'un penseur libéral, c'est que la vérité a tout à gagner à la liberté. En particulier, ce fut une grande question au XIXe, celle de la liberté de presse, que défendit Benjamin Constant, ainsi d'ailleurs que Montalembert. Enfin, Benjamin Constant est mort au moment où Montalembert rentrait en politique, 1830. À propos de la liberté de presse, Benjamin Constant dit « Supposons une société antérieure à l'invention du langage et suppléant à ce moyen de communication rapide et facile par des moyens moins faciles et plus lents. La découverte du langage aurait produit dans cette société une explosion subite. » Vous pouvez transposer la presse, Internet. Je relis. Supposons une société antérieure à l'invention du langage et suppléant à ce moyen de communication rapide et facile par des moyens moins faciles, plus lents. La découverte du langage aurait produit dans cette société une explosion subite. L'on aurait vu des périls gigantesques dans ces sons nouveaux. Et bien des esprits sages, de graves magistrats, de vieux administrateurs auraient regretté le bon temps d'un paisible et complet silence. Mais la surprise et la frayeur se seraient usées graduellement. Le langage serait devenu un moyen borné dans ses effets, une défiance salutaire, fruit de l'expérience, aurait préservé les auditeurs d'un entraînement irréfléchi. Tout enfin serait rentré dans l'ordre. Et avec cette différence que les communications sociales et par conséquent le perfectionnement de tous les arts, la rectification de toutes les idées, auraient gagné un moyen de plus. Il en sera de même de la presse. Page admirable. Qu'est-ce que Benjamin Constant est en train de nous dire ? Il est en train de nous dire que la vérité a tout à gagner à la liberté et que le meilleur moyen de faire pièce au désordre des opinions, c'est de les libérer. Lutter contre les méfaits de la liberté par la liberté. Voilà le mot-clé. Lutter contre les méfaits de la liberté par la liberté. Oui, pouvez-vous dire... C'est horrible ce qu'on met sur, je sais pas quoi, Internet. Bon. Première mesure, interdisons. Votre interdiction sera impuissante, elle va créer des mécontents et va en rien arrêter les désordres. Réponse libérale, tu trouves que cette opinion est horrible ? Eh bien vas-y, descends dans l'arène et dis-le. Et à ce moment-là, au lieu de bouder et de se réfugier hors de l'arène, chacun est tenu de témoigner de la validité de ce à quoi il croit en descendant dans l'arène publique. C'est la grande ouverture de cet espace public où, évidemment, on tremble parce que tous les points de vue se valent. On demande à un coureur cycliste ce qu'il pense de la bombe atomique. Oui, on ne peut en être scandalisé. Voulez-vous l'empêcher ? Eh bien, demandez à un expert en balistique, demandez à un physicien, demandez à un militaire de vous parler de la bombe atomique. Et ce n'est pas en refermant l'espace de discussion, c'est encore, au contraire, en l'ouvrant davantage que vous ferez advenir la vérité. Benjamin Constant a cette très belle phrase, il dit « quand on met la vérité du côté de l'oppression, alors malheureusement, on met la liberté du côté de l'erreur. Car les hommes préféreront toujours la liberté. Je J'en déduis rapidement trois caractères du libéralisme. Premier caractère fondamental du libéralisme, auquel reconnaître une pensée libérale. D'ailleurs, c'est ce que j'ai suggéré dans la description que j'ai faite, trop rapide, de l'espace public de discussion. C'est que une liberté, il s'agit évidemment des libertés, hein, pas de la liberté. C'est-à-dire, il s'agit des conditions d'exercice du mouvement. Les libertés, c'est l'exercice du mouvement. Liberté de presse, liberté de circuler, liberté d'opinion, liberté religieuse. Les libertés sont définies par leur forme et non pas par leur contenu. Ça, c'est le point fondamental du libéralisme. Les libertés sont définies par leur forme et non pas par leur contenu. C'est-à-dire que la seule manière de lutter contre l'arbitraire, c'est le privilège accordé aux formes. D'où le juridisme libéral. Privilège accordé aux formes. Je ne juge pas de la validité d'une opinion, mais de sa correction formelle. Je ne juge pas du fait que telle émission de télévision est de qualité. Je ne juge pas du fait que les gens qui y participent sont libres. Peut-être que tous ces gens qui participent à une émission de télévision continuent de dégueuler la même opinion conformiste. Ils ne sont pas libres. Oui, mais moi ce qui compte, c'est quel est le temps d'antenne qui leur est imparti, quelles sont les fréquences auxquelles ils ont droit. Quelle est la répartition que l'on se donne des moyens des formes de la liberté. Vous voyez ? Es-tu socialiste ? Es-tu libéral ? Tu es socialiste si tu te préoccupes des conditions des libertés. Tu es libéral si tu te préoccupes des formes de liberté. Liberté de presse. Un socialiste dira, attends, liberté de presse, il faut avoir les moyens de créer un journal. Le libéral dit, moi je ne vais pas intervenir sur les moyens de créer le journal et encore moins sur le contenu du journal. J'interviens simplement sur la liberté formelle de créer un journal. Cette liberté, elle est formelle au sens où elle n'est pas matérielle. Elle est matérielle ni par sa source, ses moyens, ni par son contenu. Donc c'est une société du droit. C'est pour ça que j'ai insisté au début sur le fait que c'était une société du droit et non pas du devoir. Et à défaut d'être juste, donc c'est au moins une société dans laquelle l'attachement aux formes préserve contre l'arbitraire. La grande obsession des penseurs libéraux, c'est d'être préservé de l'arbitraire. Arbitraire du souverain, arbitraire du prélat. De tous ceux qui exerceraient une autorité sans avoir à en justifier la raison. Le deuxième aspect bien connu du libéralisme sur lequel je ne m'attarderai pas parce que tout le monde sait cela, c'est l'idée de la libre circulation des biens. Et l'idée que cette libre circulation des biens est encore la solution la plus juste que l'on ait. Car, aux yeux du libéral, on peut être assuré que, si les biens s'échangent librement, ils finiront par se répartir équitablement. En tout cas plus que si l'on procédait de manière impérative, à des règles de partage comportant des restrictions et des interdits. C'est pourquoi les actes essentiels de la Révolution, c'est la suppression du droit d'aînesse. La suppression du droit d'aînesse, ça, c'est fondamental. C'est ce qui fait que nos enfants jouent sur les portiques et les toboggans dans l'ancien parc du château du seigneur du village. Parce que, à force d'être divisé, les propriétés se partagent. À force d'être divisé, les propriétés s'échangent. Et au bout du compte, l'échange assure une répartition des richesses plus égalitaire, au bout du compte, que une quelconque intervention autoritaire. C'est la même raison pour laquelle l'autre acte essentiel dans la Révolution française, chacun le sait, ça a été la loi Le Chapelier, c'est-à-dire celle qui supprime les jurants de les corporations et qui libère le travail. En libérant le travail, on libère les capacités d'innovation, on libère la possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés. La concurrence est le seul moyen juste de répartir les biens. Si on laisse ces biens s'échanger donc de gré à gré selon la description que l'on a faite du commerce, on est assuré que des sujets rationnels, autonomes, calculateurs partageront les biens de la manière la plus juste, que en gros ils arriveront au juste prix, qu'ils arriveront aux justes conditions et aux meilleurs produits. En tout cas, de manière plus assurée que si l'on prend une attitude dirigiste. Voilà pourquoi Benjamin Constant dit que il y a deux hommes dangereux pour la société. C'est les deux hommes qui n'ont rien à perdre. C'est le riche et le pauvre. Le pauvre n'a rien à perdre, le riche n'a rien à perdre. Et les révolutions sont faites par l'alliance des riches et des pauvres, qui tous deux n'ont rien à perdre. Alors que l'ordre ne peut venir que de la possession ou de l'espoir de posséder ou de l'espoir d'échanger et de participer donc à la répartition des biens. D'où troisième trait auquel reconnaître le libéralisme. Alors ce trait, j'insiste un peu dessus parce que il contredit une opinion souvent répandue mais qui est tout à fait erronée. Le rôle essentiel de l'État dans le libéralisme. Le rôle essentiel de l'État dans le libéralisme pour deux raisons. La première, c'est que l'État est ce par quoi chacun va pouvoir se voir reconnu et être tenu de, justement, de rendre raison dans l'espace public. Donc, la création des partis, la création des syndicats, la création de tous les consistoires possibles et imaginables, c'est la possibilité que donne l'État à un groupe de la société de prendre conscience de lui-même et de sa responsabilité sur la place publique. On en a un exemple bien connu actuellement en France et depuis de nombreuses années. C'est, beaucoup de gens disent, le problème de l'islam, c'est qu'il n'y a pas d'organisation de l'islam. Qui aurait besoin qu'il y ait une organisation de l'islam? L'État. Et si l'État avait un interlocuteur, à ce moment-là, il émancipe et le musulman de ses corrigionnaires et l'espace public d'une potentialité, d'une éventualité de fanatisme. Et donc, c'est cette double émancipation qui fait que l'État émancipe les individus de la tutelle des groupes qu'il reconnaît. Ma phrase est longue, mais elle est essentielle. L'État émancipe les individus de la tutelle des groupes qu'il reconnaît. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un fidèle peut porter plainte contre son évêque, l'allégeance du fidèle à l'évêque n'est plus du tout comparable à celle d'une mafia ou d'un groupe de pression quelconque. Et donc on voit bien toujours et toujours que c'est l'État qui émancipe les individus. Et il émancipe les individus en reconnaissant les corps sociaux. Et en leur donnant la possibilité, par cette reconnaissance, de faire que les individus qui la composent s'en émancipent. Ça, c'est la grande analyse de Hegel, qui est victime d'une série de contresens affligeants, le pauvre, il doit... Je plains Hegel à toutes les bêtises qu'il entend à son propos. J'espère qu'il les entend pas. Mais donc, voilà, faire de Hegel l'origine de l'État totalitaire, ça, c'est de dispenser de l'avoir lu. Donc, ce que Hegel dit bien, c'est au contraire que l'État, c'est ce qui permet de poser l'individu comme tel, parce que c'est ce qui permet à l'individu de se voir reconnu et de voir reconnu en même temps le groupe auquel il appartient. Par exemple, la famille est un lieu d'oppression et de violence épouvantable. On le sait, car toutes nos familles sont tragiques. Et qu'est-ce qui fait sortir la famille de ces tragédies? C'est l'État. Et qui permet à un enfant de porter plainte contre ses parents parce qu'il leur a donné une fessée. Auquel cas, évidemment, il y a longtemps que je serais en prison. Mais bien. Les droits de l'enfant, la Déclaration universelle des droits de l'enfant, c'est un texte ultra-libéral. J'ai violé, comme père de famille, tous les droits de l'enfant. J'ai pratiqué le délit d'opinion, la séquestration arbitraire, la torture, la guerre biologique, tout. Mais au fond, je sais pas si j'ai eu raison. En tout cas, il est bien heureux qu'un enfant puisse protester contre son vieux. Et ça, c'est l'État qui le permet. Deuxième caractère émancipateur, deuxième caractère de l'État libéral, puisque les règles du commerce, alors c'est ce que Marx n'avait pas vu du tout, puisque les règles du commerce peuvent aboutir à des situations de monopole ou de délit d'initié et choses comme ça, le rôle de l'État, c'est précisément d'entretenir la concurrence. C'est ce que l'on voit, par exemple, entre les fournisseurs d'accès. L'État veille, alors on peut discuter, mais l'État a pour mission de veiller à ce que, précisément, il n'y ait pas de situation de monopole. C'est là que Marx s'est tout à fait trompé sur la fonction de l'État. Cependant, c'est bien joli, mais tout cela n'est pas sans danger. Ces dangers sont bien connus. Le premier, c'est celui de l'individualisme. C'est-à-dire que cet individu, porteur de droits, calculateur et sachant estimer ses intérêts, est dépourvu de toute solidarité. Donc on voit dans notre société le crépuscule du sens de l'engagement. Engagement dans le mariage, engagement dans les ordres, engagement dans les partis politiques, engagement dans les syndicats, engagement par rapport à la nation, tous les corps qui solliciteraient un don de soi sont récusés, dans la mesure où précisément l'individu autonome calculateur et rationnel ne voit aucun motif à se donner de manière irréversible, d'où le modèle privilégié du contrat. C'est ce à quoi on est en train d'assister avec le mariage, puisque le mariage, si le mariage gay passe, mais même s'il ne passe pas, parce que de toute façon nos contemporains le considèrent comme ça, maintenant pour nos contemporains le mariage est un contrat, alors que pour ses fondateurs il était une institution. Donc pour les fondateurs du mariage, le mariage était un devoir, maintenant il devient un droit, même un droit pour tous. Parce que précisément, dans un contrat, donc ces droits peuvent se reprendre, peuvent se négocier, et un contrat ne prescrit pas une nature des sujets contractants. Quels que soient les organes sexuels des sujets contractants, les contrats sont valides. Donc, c'est le danger de l'individualisme. Bien souligné par Tocqueville, c'est ce que Tocqueville avait découvert lors de son voyage en Amérique dans la société démocratique. L'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables, à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis, de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la plus grande société elle-même. L'individualisme est d'origine démocratique et il menace de se développer à mesure que les conditions s'égalisent. Plus une société est égale, égalitaire, plus elle est, donc ça c'est contre-intuitif par rapport à ce que disaient les socialistes, plus une société est égalitaire, plus elle est individualiste. Chez les peuples aristocratiques, en effet, les familles restent pendant des siècles dans le même état et souvent dans le même lieu. Cela rend, pour ainsi dire, toutes les générations contemporaines. Un homme connaît presque toujours ses aïeux. Il se fait volontiers des devoirs envers les uns et les autres, et il lui arrive fréquemment de sacrifier ses jouissances personnelles à ces êtres qui ne sont plus, ou ne sont pas encore, ses ancêtres, ses descendants. Alors que l'homme libéré, l'individu calculateur rationnel, est sans ancêtres, sans descendants. Le deuxième danger souligné par Tocqueville de cette société libérale, c'est celui de la neutralité axiologique, la neutralité sur le plan des valeurs. C'est ce que maintenant nous appelons le relativisme. Parce qu'on a bien le sentiment angoissé que si tous les points de vue peuvent se faire valoir, que si tout peut se dire, plus aucune valeur ne semble reconnue, et donc on verrait des hommes indifférents aux valeurs vaquer tranquillement à leurs petites affaires, à leur petit confort, dans une indifférence à la vérité. Et c'est vrai que finalement, la question posée au libéralisme, c'est bien celui de remonter la mobilette. Le droit ne nous permet pas de vivre ensemble. Le droit ne fonde aucune raison de vivre ensemble. Le droit ne part que de l'horizon de la violence esquivée, mais pas du tout des raisons de vivre ensemble. Car ce qui nous fait vivre ensemble transcende les intérêts de chacun. Et c'est ce qui fait que le lien social, pour ça que j'utilisais la métaphore du couteau qui disjoint les articulations, le lien social semble sans cesse se défaire sous l'impulsion du mouvement libéral qui nous individualise, qui fait de chacun un porteur d'intérêt qu'il n'est pas prêt à reprendre. Et là encore, la réponse de Tocqueville à cet individualisme et à cette indifférence axiologique est de parier que l'individualisme sera surmonté en laissant plus d'initiatives aux individus. Monde associatif, activité spontanée dans un quartier, dans une rue, etc. Benjamin Constant a commencé à l'âge de 18 ans un livre sur la religion qu'il écrivait en plein directoire, alors qu'il se promenait avec une canne tordue et qu'il disait un collet noir et des perruques blondes. Il a commencé à l'âge de 18 ans un livre sur la religion pour pourfendre les vieilles superstitions. Ce livre sur la religion, c'est assez étrange, il l'a travaillé toute sa vie. Et dans son journal, on voit travailler. Et il en a publié 6 volumes, ceux qui veulent me les offrir seront les bienvenus. Enfin, ils ont été récemment publiés, mais sinon c'était des textes pratiquement introuvables. Et le dernier volume, il a signé Le Bon à tirer le 8 décembre 1830. Il est mort le 9 décembre 1830. Et le dernier volume, il l'a signé avant sa mort, Et entre-temps, entre le livre commencé à l'âge de 18 ans et le livre fini en 1830, Benjamin Constant était devenu croyant comme il pouvait l'être, c'est-à-dire je suis trop sceptique pour être incroyant. Jolie formule. Mais en tout cas, les analyses politiques de Benjamin Constant l'ont conduit à penser la religion autrement. Car Benjamin Constant, comme Tocqueville, voit dans la religion le remède à la dislocation de la société par l'intérêt. Oui, une société est impossible si il n'y avait que des coalitions d'intérêts. Il faut donc qu'il y ait quelque chose qui fasse une enceinte à cette société qui est menacée de dislocation, et il faut donc qu'il y ait quelque chose dans l'être humain qui ne s'identifie pas au simple calcul rationnel. Alors c'est là que le romantisme, celui de Chateaubriand, celui de Benjamin Constant, celui de Madame de Staël, celui d'une certaine manière de Tocqueville, voit dans la religion une aspiration à l'infini, l'aspiration des grandes âmes, l'aspiration de ceux qui cherchent l'impossible et qui vont donc par là même au-delà du froid calcul de l'intérêt et permettent de fonder des véritables solidarités. Et c'est pourquoi, que ce soit Tocqueville ou que ce soit Benjamin Constant, Tocqueville admirant le caractère éminemment religieux de la société américaine, ou Benjamin Constant, donc tous deux voient dans la religion une possibilité assez bien calculée au fond d'aller au-delà du calcul et de corriger donc les effets délétères du libéralisme individualiste et relativiste. Juste une dernière citation pour laisser la parole à Benjamin. Ne faisons pas un crime à la civilisation de procurer à l'homme des jouissances et de lui en rendre l'acquisition plus facile. Mais comme ces jouissances et la facilité que l'homme trouve à les obtenir attachent chacun à la position qui les lui assure, il est évident que chacun éprouve plus de répugnance à risquer cette position, même quand le devoir l'y invite. En conséquence, cet état de civilisation tend à la stabilité, ou si l'on veut, au bon ordre, plus qu'à la vertu. Or, le bon ordre, chose utile, chose indispensable, à la prospérité, est plutôt un moyen qu'un but. Si pour le maintenir, on sacrifie toutes les émotions généreuses, on réduit les hommes à un état peu différent de celui d'animaux industrieux, dont les ruches bien ordonnées et les cases artistement construites ne sauraient pourtant être le plus bel idéal de l'espèce humaine. Il est donc important de contrebalancer cet effet de la civilisation en recueillant et en entretenant le plus possible les sentiments nobles et désintéressés. Cela est important afin de préserver la civilisation elle-même des dangers qui résultent pour elle de sa propre tendance.